Vous savez quoi? YouTube est en train de renforcer sa censure à mon égard. Alors, écoutez cet épisode, vous allez vous marrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, ces conversations du lundi qui deviennent absolument passionnantes. C'est digne d'un roman photo ou digne d'un thriller. Pour l'instant, il n'y a pas encore énormément d'action, mais quand même, c'est très très intéressant de voir que depuis lundi dernier, aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 29 septembre 2019. Cette vidéo va être mise en ligne le 30 septembre 2019. Eh bien, c'est vraiment très très drôle de voir à quel point les équipes de YouTube sont en train de se mobiliser pour essayer, d'une part, de me discréditer et d'autre part, pour vous empêcher de vous inscrire à ma chaîne de vidéos privée que j'ai mise en œuvre. En fait, j'ai passé plus de la moitié de ma semaine à bâtir une chaîne de vidéos privée pour pouvoir avoir la liberté de vous entretenir des sujets qui me tiennent à cœur et qui, je pense, vous tiennent à cœur aussi parce que ce sont tous des sujets qui, pour l'instant, portent atteinte à votre liberté, tout simplement, votre liberté de vous informer, mais aussi de votre liberté de choisir le mode de vie dont vous avez envie, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau des pollutions que vous subissez sans que vous ayez droit au chapitre ou voix au chapitre. Et c'est très très drôle de voir qu'il y a une espèce d'effervescence chez YouTube qui fait que lorsque vous recevez les notifications de mes vidéos, certains d'entre vous avez reçu des avertissements disant que les vidéos que vous allez recevoir ou que la vidéo que vous vous apprêtez à regarder peut porter gravement atteinte à votre équilibre, à votre santé, etc. Et ceux parmi vous qui cliquent sur le lien d'inscription pour ma chaîne de vidéos privée et qui est entièrement gratuite, je le répète encore une fois, eh bien, certains d'entre vous, alors je ne sais pas tous, mais certains d'entre vous avez eu une page vous avertissant que le site sur lequel vous tentiez de vous inscrire pour rejoindre ma chaîne privée est un site de hacking, et en fait est un site d'arnaque qui risque en fait d'infecter votre ordinateur avec des virus ou avec un verre ou je ne sais pas quoi. Je trouve ça extraordinaire de voir à quel point en quelques jours la résistance se met en place chez les gens d'en face et moi ça m'amuse vraiment beaucoup et je dirais que ça ne fait que m'encourager à aller encore plus loin dans les propos que je vais tenir avec vous à propos des conditionnements dont nous sommes tous victimes d'une manière ou d'une autre, à des degrés divers. Et avant de vous passer un extrait de ce que je ne vous ai pas passé la semaine dernière parce que ma vidéo était trop longue, et donc dans la suite de cette vidéo d'aujourd'hui, vous allez m'entendre vous raconter plusieurs anecdotes où j'ai été l'objet de censure de la part de la plupart des stations de radio dans lesquelles j'intervenais auparavant et la manière dont j'ai été censuré aussi par les services du Premier ministre français lors de ma tournée de projection-conférence du documentaire du Dr Hammer en mars 2009. Là ce sont des illustrations si vous voulez, mais avant cela, je voulais vous expliquer davantage ce que j'ai l'intention de faire à partir de la semaine prochaine dans ma chaîne privée de vidéos à laquelle vous êtes déjà plus de 7000 à vous être inscrits en moins d'une semaine. Et donc, c'est une occasion pour moi vraiment de remercier finalement mes adversaires. Il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube qui s'intitule « Bénissez vos ennemis » et ça a tout Ça a toujours été mon attitude, si vous voulez, quand les autorités ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, m'ont traité de secte, m'ont traîné dans la boue, ont fait des émissions de télévision contre moi, etc. D'ailleurs, je suis en train de rechercher dans les archives du net ces émissions où on m'a lynché véritablement avec des caméras cachées dans mes séminaires, etc. Mais à tous les coups, ça m'a fait de la publicité, hein. Comme disait un de mes amis jésuites, qu'on en dise du bien ou qu'on en dise du mal, l'important, c'est qu'on en parle. Et donc, je trouve vraiment intéressant le mouvement qui est en train de se créer, la communauté qui est en train de se créer de gens qui ne veulent plus continuer à être manipulés, à être désinformés et à être, je dirais, privés de leurs libertés élémentaires, qui est le simple choix de s'informer à des sources auxquelles on a plus confiance, le simple choix de se soigner de la manière qui nous paraît la plus respectueuse de notre corps, le simple choix de disposer de notre argent et de notre richesse de la manière dont nous estimons que nous y avons droit parce que nous sommes des individus fondamentalement libres. Je vous rappelle quand même qu'en France, le slogan de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Cette liberté, moi, je ne la vois plus, ni en France, ni dans d'autres pays dits démocratiques. Donc, je trouve ça vraiment très, très drôle ce qui se passe. Et donc, ça ne fait que me renforcer dans mon engagement dont je vous ai parlé la semaine dernière, cet engagement à vous livrer les meilleures informations possibles pour que vous puissiez, de façon autonome, discerner quels sont les mécanismes qui vous mettent dans des processus de manipulation et de conditionnement. Donc en fait, moi je ne vous demande toujours pas de me croire sur parole. En fait, on s'en fout de ce que dit Crèvecœur et on s'en fout encore plus de quelles sont les convictions de Crèvecœur à propos de la vaccination, à propos de l'économie, à propos du réchauffement climatique, à propos du 11 septembre, à propos des histoires de pédophilie, etc. On s'en fout complètement de quelles sont mes convictions personnelles. Ce sont mes convictions au niveau spirituel aussi, au niveau agroalimentaire, etc. Quel est mon régime alimentaire? On s'en fout de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse de faire, et c'est ça que je m'engage à faire sur ma chaîne privée de vidéos, c'est que finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous donner des références, c'est sûr, mais surtout de vous expliquer les mécanismes de conditionnement et les mécanismes de manipulation qui sont mis en place par les gens qui ont tout intérêt à vous conditionner et à vous manipuler. Et en faisant cela, ben, je vous donnerai les outils pour vous-même tester si je suis en train de vous conditionner et de vous manipuler. Vous comprenez le deal? Donc en fait, moi, ce que je cherche à faire, c'est que vous soyez de plus en plus libre au niveau de votre pensée et au niveau de votre manière de vivre. D'accord? Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je ne vais pas, dans ma chaîne privée, refaire toute l'histoire de la vaccination, je ne vais pas refaire toute l'histoire du sida, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du réchauffement climatique parce que là aussi il y a une arnaque qui est aussi grosse que la planète. Moi je suis malheureux de voir que des millions de personnes sont en train de se mobiliser contre le réchauffement climatique, alors que ce n'est pas ça le vrai combat. Mais bon, ça j'aurai l'occasion de vous expliquer. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour vous mobiliser sur des causes qui ne sont pas les véritables causes sur lesquelles on devrait se mobiliser aujourd'hui? Je vais vous parler des chemtrails, je vais vous parler de pédophilie, je vais vous parler du 11 septembre, je vais vous parler du suicide collectif de l'ordre du Temple solaire, je vais vous parler des attentats terroristes, je vais vous parler de tout cela, mais pas pour refaire un travail journalistique qui a été très très bien fait par des journalistes qui y ont passé parfois des années. Je vous donnerai par contre les références pour que vous puissiez aller voir vous-même ces dossiers qui ont été constitués par des journalistes professionnels. Moi, je ne suis pas journaliste professionnel, je n'ai pas le temps et je n'ai pas les moyens financiers de refaire tout ce travail qui a été très très bien fait à propos de ces questions. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un véritable travail d'épistémologie, c'est-à-dire de vous donner les points de repère pour comprendre les mécanismes qui sont mis en place pour vous embobiner dans des discours qui vous mettent sur des voies de garage, qui vous emprisonnent et qui finalement vous conditionnent dans un processus totalement manipulatoire. C'est ça qui m'intéresse. Voyez, parce que finalement, si vous regardez ce que j'ai fait dans cette chaîne privée depuis le début, c'est que je suis parti du constat que nous avons beaucoup plus en commun avec les poissons rouges qui sont enfermés dans leurs propres bocaux et qui ne se rendent pas compte que finalement, ils sont confinés dans une façon de voir le monde qui est extrêmement restrictive et extrêmement étroite. Dans la deuxième vidéo, dans la deuxième conversation du lundi, je vous disais qu'en même temps, c'est une illusion de croire qu'on ne peut plus être conditionné. On sera toujours conditionné. Le tout, c'est de choisir quels sont les conditionnements que nous choisissons et que nous voulons intégrer dans nos vies, des conditionnements qui, on l'espère en tout cas, sont beaucoup plus larges que les conditionnements du bocal dans lequel nous sommes nés au départ et dans lequel nous avons été enfermés. Et je vous expliquais aussi que ces conditionnements que nous subissons dès notre naissance, finalement, sont le terreau, sont la matière première qui permet, finalement, que nous soyons manipulables et manipulés. D'accord ? Donc, ça, c'était la troisième vidéo. La quatrième vidéo, j'étais dans ma voiture. Certains d'entre vous, vous m'avez donné quelques leçons de conduite et quelques remontrances alors que j'étais dans un cul-de-sac de 10 km dans ma région et je faisais du 30 km à l'heure. Je n'ai pas croisé un seul piéton et j'étais dépassé en tout et pour tout par une seule voiture puisque je ne faisais que du 30 km à l'heure. Alors, arrêtez de me faire des leçons de conduite automobile. Je n'aurais jamais fait ça, évidemment, sur une autoroute ou en plein cœur d'une ville. Bien entendu, mais bon, dans cette vidéo, je vous parlais de pourquoi est-ce que nous avons peur de sortir de nos bocaux, pourquoi est-ce que nous avons peur de sortir de nos conditionnements, et là, je vous parlais finalement de notre tendance à être non seulement semblable à des poissons rouges, mais à des moutons, puisque sortir du troupeau, c'est quelque part se mettre en danger, et je vous donnais une bonne nouvelle qui était que finalement, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir sortir du troupeau. Donc finalement, on pourrait recréer un nouveau troupeau. Et finalement, c'est ce qui est en train de se passer avec la chaîne privée que je viens de mettre en place. C'est que nous sommes en train de créer une famille de cœur et une famille d'esprit qui est une famille où nous sommes tous quelque part marginaux par rapport au discours dominant de la société, mais on se retrouve ensemble à se tenir chaud, je dirais, et à se serrer les coudes et à s'échanger des informations. Et c'est vraiment dans ce sens-là aussi que j'ai voulu créer cette chaîne privée à laquelle, évidemment, vous pouvez toujours vous inscrire. Après cela, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le temps de vous parler de ma propre expérience de déconditionnement entre l'âge de 18 et 28 ans. Donc ça, c'était les conversations numéro 5 et 6. Et puis après, j'ai commencé mon travail proprement dit pour vous dire, ben, en fait, voilà un premier élément qui peut vous servir de façon très concrète pour repérer quels sont les conditionnements dans lesquels vous vous trouvez et pour pouvoir critiquer les discours que l'on vous transmet lorsque vous êtes face à un discours scientifique, par exemple. Et c'est là que je vous ai parlé de postulat des sciences, où je vous disais, ben, finalement, un postulat, c'est une hypothèse dont on part au départ. Cette hypothèse est quelque chose que l'on pose, qu'on ne démontre pas. Et même si on fait tout un raisonnement qui est totalement correct par la suite, eh bien, la conclusion à laquelle on va arriver est nécessairement fausse, puisque l'hypothèse de départ est fausse. D'accord ? Donc, en fait, c'est là où je trouvais important de vous parler de postulats. Je vous ai parlé de postulats en économie, en biologie, en physique, en médecine, etc. Et donc, c'est là que, lors de la conversation numéro 8, j'ai pris la peine de vous parler de la synthèse de toutes mes lectures, de 33 ans de lecture à propos de la vaccination, qui pour moi est un des postulats les plus erronés de la médecine moderne. Et donc, c'est là que les choses ont dérapé, où il y a eu énormément de réactions et il y a commencé à voir les premiers signes de censure qui se confirme cette semaine. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, ok, vous voulez jouer, les gars, eh bien, on va jouer. Et donc, on va jouer à sortir des réseaux sociaux. Donc, en fait, je vais essayer de rester le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook, mais avec un objectif très clair, hein, et donc là, c'est même pas de la manipulation de ma part, c'est je vous annonce très clairement que je vais utiliser la visibilité que me donnent encore YouTube et Facebook pour vous inviter gratuitement à me rejoindre sur ma chaîne privée pour que je puisse vous entretenir des dossiers qui me tiennent à cœur et qui, eux, ne dureraient pas très très longtemps si je vais trop loin dans mes propos. D'accord ? Donc, en fait, c'est ça le deal que je vous propose. Et donc, la seule exception que je vais faire, parce que je vous ai dit que je n'allais pas faire un travail de journaliste, la seule exception que je vais faire, c'est à propos du sida et à propos des vaccins, où là, je m'engage à faire un dossier complet en marge de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je raconte? De ma chaîne privée. Donc, en marge de ma chaîne, je vais vous faire un cours complet sur le système immunitaire, sur les vaccins, sur le sida et sur comment finalement pouvoir maintenir l'équilibre de sa santé sans s'injecter tous ces poisons qu'on est en train de nous injecter à travers les vaccins sous prétexte de nous protéger de ces méchants virus et de ces méchants microbes. Donc ça, c'est la seule chose que je trouve important de faire gratuitement pour vous parce que c'est un sujet qui est trop vital, et c'est le cas de le dire, et il en va vraiment de la survie des prochaines générations, parce qu'une des découvertes que j'ai faites lorsque j'ai fait mes recherches au moment de la grippe H1N1, c'est que de génération en génération, les mères qui portent des enfants transmettent de moins en moins d'immunité à leur propre bébé parce que ces mères ont été elles-mêmes démolies en partie au niveau de leur immunité à cause de la vaccination. Donc en fait, contrairement à ce qu'on nous chante depuis pratiquement 150 ans, les vaccins diminuent la capacité du système immunitaire et la transmission de l'immunité naturelle se fait de moins en moins fortement d'une génération à l'autre. Ça veut dire que si on continue à laisser faire ce que j'estime être un génocide à l'échelle planétaire, eh bien, dans quelques générations, nous ne serons plus capables de survivre naturellement, sauf ceux qui ont l'information qu'il vaut mieux ne pas se laisser vacciner. Voilà. Donc ça, je le ferai, mais ça, je ne le ferai ni sur YouTube, ni sur Facebook. Donc, tenez-le pour dit, c'est mon engagement. S'il y a d'autres dossiers que je fais, ce seront des dossiers payants, parce qu'évidemment, il faut bien que je continue à vivre et que je continue à payer toute l'équipe qui est derrière moi pour vous offrir tous ces services. Mais je veux faire quelque chose de gratuit. Ce sera un cours sur les vaccins et ça, vous y aurez accès gratuitement. D'accord ? Bien. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire et maintenant je vous fais voir ce que j'avais enregistré la semaine dernière et où je vous raconte quelques anecdotes à propos de la censure dont j'ai été victime, à propos de la radio et à propos des services du Premier ministre qui ont essayé de m'empêcher de faire une tournée de conférence en mars 2009. Alors, bonne suite de visionnage et on se retrouve à la fin pour que je vous donne rendez-vous pour les prochaines conversations du lundi. Bien, alors je vous avais promis quelques anecdotes, mais ça c'est vraiment juste pour le plaisir, pour terminer cette vidéo, parce que j'ai déjà eu dans ma carrière de formateur professionnel, hein, je vous rappelle que ça fait depuis 1989 que je suis formateur, et donc j'ai eu l'occasion déjà d'avoir la preuve, c'est pas des on-dit là, c'est vraiment j'ai eu la preuve concrète du fait que la censure, elle était bien présente dans notre monde d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand vous y réfléchissez, quand il y a un coup d'État militaire qui se fait dans un pays, quand il y a un coup d'État où un dictateur veut prendre le pouvoir, quelle est la première chose que le général qui fait un putsch ou que le dictateur qui est en train de faire un coup d'État va faire? Ils vont prendre immédiatement le contrôle de la presse et de la télévision. Pourquoi d'après vous? Mais c'est parce que l'information, les médias, c'est un élément stratégique de manipulation des foules. Donc, il ne faut pas s'étonner, étant donné qu'il y a des milliards et des milliards d'enjeux dans le domaine des compagnies pharmaceutiques, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des télécommunications. Vous pensez bien que c'est un enjeu dans la dictature dans laquelle nous sommes depuis des années et des années. En fait, vous ne vous en rendez pas, peut-être pas compte, mais nous sommes en dictature. Hein, comme disait Coluche, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Et je trouve que ce regretté Coluche avait tout à fait raison en parlant de nos soi-disant démocraties qui, en fait, ressemblent point par point à des dictatures, mais ce sont simplement des dictatures invisibles et des dictatures douces. Alors, je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente de la tentative d'embauche ou de débauche dont j'avais fait l'objet de la part du commandant Noël Vassen, où il me demandait finalement de travailler au service du Palais Royal pour les aider à manipuler l'opinion publique à travers la presse écrite, radio et télévisée. Hein, vous vous souvenez de tout cela, sinon allez réécouter la conversation du lundi où je vous parle de mes déconditionnements entre 18 et 28 ans. Et donc là, j'avais déjà eu un premier indice de première main, si vous voulez, que les médias agissaient aux ordres d'un pouvoir occulte qui est dans l'invisible, que vous ne verrez jamais dans les médias et que vous ne verrez jamais évidemment à la télévision, mais qui sont des gens qui tirent les ficelles et qui disent aux rédacteurs en chef finalement ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Bien. Ça, c'était le premier indice, la première confirmation. Et lorsque j'ai commencé à écrire des livres, alors j'ai publié en 1993 un premier livre consacré au jeu de pouvoir qui s'appelait « De l'amour du pouvoir à la puissance de l'amour » qui a été réédité depuis avec un titre qui était « Relations et jeux de pouvoir ». Et c'est un livre qui est toujours en vente dans les librairies 26 ans plus tard. Je suis devenu très rapidement la coqueluche des journalistes de la radio et de quelques journalistes de la télévision. J'ai fait des dizaines et des dizaines, je pense plus d'une centaine d'émissions de radio dans des stations différentes, en Belgique, au Luxembourg, en France et en Suisse. À l'époque, je ne voyageais pas au Canada. Et les journalistes adoraient les interviews avec moi parce qu'ils trouvaient que j'avais une belle voix radiophonique, ils trouvaient que j'expliquais de façon très claire, très enthousiaste, que ça suscitait beaucoup d'audience finalement au niveau de leur public, de telle sorte que lorsque j'ai publié mon deuxième livre sur les enfants de l'autonomie, j'ai été l'invité très naturel de toutes ces stations de radio. Lorsque j'ai publié avec ma première femme un livre qui s'appelait « Le couple en éveil », à nouveau j'ai été invité sur toutes les stations. Lorsque j'ai publié le quatrième livre qui était « Être pleinement soi-même », j'ai été encore invité sur toutes les stations. Et puis, il y a eu un petit moment de creux, donc je n'ai pu publier tout de suite. Et figurez-vous que les journalistes téléphonaient à mon éditeur en disant « Est-ce que Crèvecœur a publié un livre cette année? On aimerait le réinviter. » Et l'éditeur disait « Ben non, il est en train de préparer un nouveau livre. Oh, ben c'est pas grave, invitez-le quand même, on trouvera bien un sujet sur lequel le faire parler. » Donc, c'est pour vous dire à quel point j'étais aimé par les médias. Et puis, j'ai fait la connerie. Mais que j'assume complètement et pour laquelle je n'ai aucun regret, de publier un livre qui s'appelle « Le langage de la guérison » et qui lui est toujours en vente actuellement. C'est un bouquin qui a été publié en 1999. Mon éditeur a envoyé ce livre à tous les journalistes qui avaient l'habitude de m'inviter, même lorsque je ne publiais pas de livre, et aucune station de radio n'a accepté de m'inviter. Aucune. Parce que dans ce livre, je mettais en question le dogme vaccinal et le dogme lié à la cancérologie. Alors, pour être honnête, j'ai quand même été invité par deux journalistes. Deux journalistes sur les centaines de journalistes qui me connaissaient et qui avaient reçu mon livre en service presse. Il y a eu Marc Menant de Europe 1 et Roselyne Fayard de la radio suisse romande. En fait, ce sont les deux seuls qui m'ont invité. Mais là aussi, je vais encore vous raconter une anecdote parce que vous allez voir à quel point la censure est très très présente. c'est que donc c'était la sixième ou septième fois que j'allais dans les locaux d'Europe 1 à Paris. Et j'avais l'habitude d'être reçu par l'assistante de Marc Menant qui venait me chercher dans le hall d'entrée, qui me faisait passer les sas de sécurité et qui me faisait attendre dans la salle d'attente à côté du studio le temps que l'émission en direct précédente se termine. Et cette fois-là, j'ai la surprise de voir Marc Menant débarquer lui-même dans le hall d'entrée d'Europe 1 et de m'emmener lui-même à travers les couloirs. Et au milieu du couloir, je ne sais plus, cinquième étage, je crois, Marc s'arrête au milieu du couloir, se tourne vers moi et me dit: Jean-Jacques, votre livre Le langage de la guérison, il est formidable. Il est génial, je suis d'accord de A jusqu'à Z de tout ce que vous dites dans ce livre. Mais je vous demande, par respect pour moi, de ne pas prononcer une seule fois le mot vaccin et une seule fois le mot de cancer, ni le nom du docteur Hammer. Et alors je le regarde et je lui dis: mais Marc, c'est le cœur de mon livre. Vous me demandez de faire une émission de 2 heures en direct avec vous sans parler du tout du cœur de mon livre et de mon propos. Il dit: oui Jean-Jacques, c'est ce que je vous demande, par respect pour moi, c'est de parler autour du sujet, de parler autour de finalement de sujets concernant les liens entre les émotions et les petites maladies comme les allergies, etc. Mais on ne va pas embarquer dans l'émission sur les vaccins et sur le cancer. Et je le regarde et je dis: mais Marc, c'est une émission en direct, donc qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas votre demande? Il me répond: ben demain matin, je ne serai plus journaliste à Europe 1 parce que j'aurai perdu mon boulot. Mais me dit-il, rassurez-vous, je vais être extrêmement élogieux et je vais encourager tous les auditeurs qui vont nous écouter aujourd'hui à acheter votre bouquin parce que je veux qu'ils achètent et je veux qu'ils lisent et je veux qu'ils aient toutes les informations qui se trouvent dans votre bouquin, mais je ne peux pas décemment le faire si je veux garder une place dans le système des médias dominants. Et donc finalement, c'est ça qui s'est passé. On a fait 2 heures d'émission, on a parlé des allergies, on a parlé des maladies psychosomatiques, on a parlé de plein de choses très périphériques. Mais Marc Menant a été tellement élogieux et dithyrambique qu'on a vendu des milliers et des milliers de bouquins dans les jours qui ont suivi, tellement il avait été élogieux. Donc finalement, je dirais que cette censure avait été extrêmement positive pour moi, mais c'est là où j'ai vraiment eu la confirmation que les journalistes, même des journalistes stars comme Marc Menant, n'avaient aucune liberté de traiter certains sujets controversés. D'ailleurs, il n'a plus tenu le coup très très longtemps, Marc Menant, puisqu'il a quitté le monde de la radio quelques années plus tard. Et le premier acte de rébellion qu'il a posé après avoir quitté le monde de la radio, c'est de publier un livre qui s'intitule La médecine nous tue. Donc c'est pour vous dire que effectivement, il en avait un peu marre de se taire à propos de toutes les informations qu'il glanait et dont il n'avait absolument pas le droit de parler. Bien. Qu'est-ce que j'ai encore eu comme autre confirmation de censure? Et à nouveau, vous voyez, ça a toujours été des épreuves et en même temps, ça a toujours été des cadeaux parce que lorsque j'ai produit un documentaire sur la vie et l'œuvre du docteur Hammer, au niveau de ses découvertes sur les liens entre les chocs biologiques et émotionnels et le déclenchement des cancers, j'ai fait un documentaire en 2008 qui s'appelle Seul contre tous. Et j'ai fait toute une série de tournée de projection conférence où je projetais mon documentaire, je faisais une conférence derrière et je vendais mon documentaire à la sortie des conférences pour que les gens en achètent plusieurs exemplaires et le diffusent auprès de leur propre entourage, puisque je me rendais bien compte que ce genre de documentaire n'allait pas être passé à la télévision. Et la première fois, ça s'est bien passé, c'était en mars-avril 2008. En octobre 2008, là, ça s'est mal passé parce que mon site internet a été hacké la veille du début de ma tournée de projection conférence en Suisse, en France et en Belgique. Mais de nouveau, là, vous savez, c'est un jeu. Hein, il faut bien vous rendre compte que c'est un jeu. Les gens qui sont en face, là, ils essayent de défendre leurs intérêts. Je comprends, c'est parfait. Je pense que si j'étais à leur place, je ferais peut-être la même chose si je n'avais pas l'éthique et la morale que j'ai. Mais probablement, si j'ai des milliards à défendre, pensez bien qu'un imbécile comme Crèvecœur, on va le faire taire, quoi. On va lui fermer sa gueule. Et puis c'est terminé, quoi. Bon. Donc c'est un jeu. Mais quand c'est un jeu, moi j'aime jouer, vous voyez, et donc j'aime regarder comment je peux tirer parti des bâtons qu'ils me mettent dans les roues. Donc là, au moment où j'ai vu que mon site était hacké, j'ai envoyé un courriel à toute ma liste en leur disant, voilà, mes sites sont hackés, donc il n'est plus possible de voir les heures, les endroits, les dates de mes différentes sessions de projection conférence de mon documentaire « Silence, on vaccine ». Et eh bien, ce que je vous propose, c'est de diffuser, de relier vous-même l'information à votre propre carnet d'adresses pour qu'on soit encore plus nombreux dans les salles. Et effectivement, on a été extrêmement, extrêmement nombreux. On a dû refuser quasiment du monde à chaque fois parce que ben, le bouche à oreille a fonctionné pour se mettre en résistance par rapport à cette manœuvre de hacking par rapport à ma tournée. Et en mars 2009, là ça a été encore pire puisque là les services du Premier ministre français ont écrit au maire des différentes villes où j'avais prévu une tournée de projection conférence en leur demandant d'interdire purement et simplement mes sessions, mes séances, mes conférences finalement, sous prétexte qu'il y avait un risque d'atteinte à l'ordre public, soi-disant parce que les opposants du docteur Hammer allaient venir casser la gueule aux gens qui seraient venus m'écouter et que donc pour maintenir l'ordre public et pour prévenir ce risque tout à fait majeur, eh bien, on allait interdire mes conférences. Et donc là, de nouveau, je me suis dit, ok, c'est un jeu, vous voulez jouer, on va jouer. Et je me suis dit, ok, donc s'ils sont au courant des 6 villes dans lesquelles je fais mes tournées de projection conférence, ça veut dire qu'ils ont infiltré ma base de données, donc ils sont dans ma liste de courriels. Donc si j'envoie un courriel, ils vont le recevoir aussi. Parfait. Donc j'ai envoyé un petit courriel en disant à ma liste, bon, suite à l'interdiction du Premier ministre par rapport à la projection du film du Dr Hammer, je vous annonce que j'ai pris la décision de supprimer ma tournée de conférence. Voilà, parce que si je ne la supprimais pas, évidemment, j'allais dans un rapport de force où il y aurait eu la gendarmerie et la police qui allaient m'interdire, évidemment, de donner mes conférences, puisqu'il y avait un ordre du maire vis-à-vis des salles de m'interdire l'accès, si vous voulez. Donc, j'ai annoncé que j'annulais ma tournée et que je la remplaçais par une nouvelle tournée aux mêmes dates, aux mêmes endroits et aux mêmes heures, mais sur un sujet totalement différent, puisque le sujet préalable et précédent n'était plus permis. Et ce sujet, c'était « Les maladies ont-elles un sens ?» Parce qu'en fait, on ne m'avait pas interdit de parler, on m'avait simplement interdit de projeter le documentaire sur le docteur Hammer et de parler de Hammer. Et donc, j'ai donné ma tournée de conférence, où les salles étaient pleines à craquer de nouveau, et c'était très drôle parce qu'il y avait à chaque fois des gendarmes et des policiers dans les salles, à l'entrée et à l'intérieur de la salle. Et ce que je disais, c'est ben, bienvenue à cette conférence dont le titre n'est plus quelque chose dont je ne peux pas vous parler, à propos d'un médecin allemand dont je ne peux pas vous citer le nom et d'un documentaire que je ne peux pas vous présenter. Mais on va passer quand même 2 bonnes heures ensemble où je vais vous parler du sens des maladies et de poser la question finalement, est-ce que les maladies ont un sens? Et je leur disais, bien évidemment, personne ne m'a interdit de vendre mes documentaires et même de vous vendre des packs de 10 documentaires pour que vous fassiez vous-même la distribution dans votre propre entourage pour que ce documentaire soit encore vu plus largement. Et j'ai vendu des dizaines de milliers d'exemplaires de mon documentaire sur le Dr Hammer grâce à l'interdiction du Premier ministre. Voyez comment le jeu est extraordinairement subtil et extraordinairement enthousiasmant. C'est que donc, quand on me met des bâtons dans les roues, au lieu de m'opposer, vous voyez, c'est au lieu de me mettre en résistance, au lieu de me sentir une victime, c'est de dire, ok, c'est légitime, tous les coups sont permis. Bon, si tous les coups sont permis, moi, les coups que je vais faire, c'est que je vais faire de l'aïkido avec ces interdictions et avec cette censure. Vous voyez, ici, je vais être bientôt interdit sur YouTube et sur Facebook. Qu'est-ce que je fais? Je crée ma chaîne privée où je vais avoir encore plus de liberté de pouvoir vous parler des sujets qui vous préoccupent et des sujets qui vous intéressent. C'est pas bien, ça? Voilà, j'aurais pu vous donner encore bien d'autres anecdotes de censure dont j'ai fait l'objet ou dont j'ai été témoin, mais je m'arrête là. L'essentiel maintenant, c'est que vous vous inscriviez dès à présent à ma chaîne privée de vidéos, puisque c'est sur cette chaîne privée que vous allez recevoir des informations que vous ne trouverez absolument pas, ni sur YouTube, ni sur Facebook. Donc, je compte sur vous pour rejoindre cette communauté qui est en train de se constituer tous les jours et que je suis vraiment très, très heureux d'accueillir pour que nous puissions, en toute liberté, accéder aux informations dont nous avons besoin pour vivre notre vie en équilibre et en plénitude.